Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Nos Reds n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul de partout contre Manchester United, alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça.
It comes to Divock Origi. He's won the European Cup for Liverpool.
Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. On vous retrouve après une petite trêve pascale. On a profité du week-end de Pâques pour souffler un peu, non pas comme nos Reds qui enchaînent depuis quelques semaines les matchs. Et on va plutôt revenir dans le vif du sujet en abordant ce match nul de partout contre Manchester United. Pour débriefer ce match nul, je suis entourée de deux copains. Le premier, c'est Just. Hello Just, comment ça va?
Eh ben, j'ai le seum, voilà. J'ai le seum grave. Je suis là parce que je vous aime et que j'aime les copains et que j'aime nos auditeurs, mais j'ai pas vraiment envie en même temps. Voilà. La dernière fois que je suis venu dans le pod, c'était pour la défaite à Manchester United en Cup.
En FA Cup,
j'avais le seum. Et ben là, bah, pareil.
Voilà. On ne revient plus alors.
on va peut-être renommer le podcast Somme Land ou je ne sais pas. On va trouver un petit nom sympathique.
La Belgique, quoi.
Ouais, voilà. Bah, du coup, bah, tu t'as fait ta propre introduction, Marvin. Tu es le président de la Somme Land de la Belgique. Je te présente. Comment tu vas, Marvin?
Ça va. Je veux dire, je comprends le Somme, mais pour moi, c'est habituel. Donc. De mon côté, ça, lundi banal.
C'est habituel, il nous a dit, alors qu'on supporte quand même une équipe qui est quand même engagée encore dans une course au titre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Marvin?
Écoute, c'est... Voilà, j'ai d'autres trucs qui me foutent le seum. Voilà,
habitant en Belgique.
Habitant en Belgique. Justement, j'en parlais avec Just juste avant.
200 jours de pluie, il a annoncé.
On a eu 200 jours de pluie de mon côté, c'était plus arrivé depuis 1957, donc... Voilà.
Eh ben, blague à part, mais à Monaco, si on a 50 jours de pluie par an, c'est beaucoup. Donc voilà. Pour le petit point météo, on repassera. Messieurs, on va revenir vraiment sur le sujet qui nous intéresse et qui intéresse nos auditeurs, parce que bon, la pluie, le beau temps, c'est sympa 5 minutes, mais on a envie de parler des Reds, de ce match nul, de partout. Ah, Just, que de regrets. Je pense que c'est un peu le mot que tout le monde aura en bouche après ce résultat contre ce Manchester United-là.
Ouais, que de regrets, parce qu'on fait une bonne entame de match, même si United commence fort, et on fait une première mi-temps où on les étouffe. Alors, je pense réellement qu'il y a une énorme classe d'écart entre Manchester et Liverpool, et je pense que... Enfin, je crois qu'on va enfoncer les portes ouvertes dans ce podcast, parce que tout le monde a vu le même match, c'est-à-dire une domination flagrante de Liverpool, un Manchester qui bon, il est limite d'être nul, quoi. C'est l'un des plus mauvais qu'on ait vu, peut-être pas aussi mauvais que l'an dernier, mais quand même bien mauvais. On fait une première mi-temps où on se crée une multitude d'occasions, pas forcément des occasions, voilà, le gardien, enfin l'attaquant seul face au gardien, tout ça, mais on a une quantité de tirs phénoménale et on finit cette première mi-temps en menant au score 1-0 et il n'y en a aucun supporter de Liverpool qui peut être content à ce moment-là. On s'est tous dit la même chose et bordel, on a tellement croqué d'occasions que ça va se retourner contre nous et pas manquer, quoi. Et du coup, ben, à l'arrivée, on se retrouve même mené 2-1 contre le cours du jeu. Et à l'arrivée, on a vraiment encore l'occasion, le sentiment de concéder un match nul face à une équipe bien plus faible, presque voilà. Enfin, je vais pas dire des termes trop méchants sur Manchester, ça va se retourner contre nous après. Mais voilà, 3 matchs contre cette saison, aucun résultat positif. Le seum, gros seum. Je reviens là-dessus, mais ouais.
Marvin, c'est aussi un peu ça le sentiment qui t'a un peu habité pendant le match, c'est de te dire ça sent mauvais en fait au fil des minutes qui défilaient. On se disait on connaît ce qui va se passer, c'est inévitable. Et de voir que finalement ça s'est réellement passé en encaissant un puis deux buts et en presque en revenant miraculeusement ou pas, on pourra en débattre. Toi aussi, tu avais vu un peu ce résultat se dessiner?
Bah, malheureusement, oui. Et je pense que même avant le match, j'en avais parlé dans le groupe en disant ma seule crainte, c'est qu'on fasse le même que le match de Cup. Et ça n'a pas manqué. On a tout croqué. On les a laissés en vie. En fait, on les laisse en vie. Hein. On leur met limite le coup de jus pour pas qu'ils meurent. On savait très bien qu'avec une demi-occasion, ils allaient être capables de se relancer. Et une fois relancés, ben, ils sont quand même chez eux. Ça reste quand même un des stades où, je veux dire, il y a quand même de l'ambiance, un public qui pousse. Et on savait très bien que ça pouvait à un moment se retourner. Quand on se retrouve avec seulement 0-1 à la mi-temps, alors que ça doit être 0-4, qu'en plus de ça, on leur laisse une bête erreur de Kansa, et c'est vraiment malheureux pour lui, parce que Sipa, il a fait un top match et ça les relance. Et après, j'ai vraiment eu l'impression que pendant 10 minutes, on était mais nulle part, on était perdu, on se faisait transpercer de tous les côtés. Je me suis dit, ben voilà, malheureusement, c'est ce que je craignais arrive. On n'a pas retenu de nos erreurs. Et je veux dire, c'est la troisième fois qu'on se fait avoir de cette manière-là contre United. C'est pas comme si on se faisait avoir de la première fois de la saison. Les deux matchs précédents contre eux, c'était pile poil le même scénario.
Déjà, dans la finition, on a pêché de la même façon que lors des deux précédents matchs. Et après, on s'est laissé embarquer dans ce match en deuxième mi-temps de la même façon qu'en Cup. C'est-à-dire où on se prend des coups pour coup, les deux blocs équipes complètement séparés, d'un côté les défenseurs, d'un côté les attaquants, et vas-y que je cours d'un côté, et on a perdu complètement le contrôle, de la même façon qu'en Cup. C'est-à-dire que au-delà de on y reviendra, hein, des problèmes de finition, tactiquement, mentalement, on a craqué exactement de la même façon, on n'a pas retenu la leçon. Voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment enrageant, encore plus, quoi.
Ouais, non, je te rejoins totalement. Au début de saison, moi, j'avais critiqué le fait qu'il manquait de leader. Là, depuis, ça va quand même un peu mieux, de merci. Mais c'est vrai qu'on a encore l'impression que ces groupes est parfois un peu immature et qu'on n'arrive pas justement à apprendre de résultats qu'on a concédés, parce que c'est clairement ça, une équipe qui joue le titre contre ce United-là, elle ne doit pas s'enliser dans un deux partout. Peut-être, je veux juste vous poser une question à chacun. Selon vous, en un mot, vous me le dites, est-ce que c'est plutôt sur ce résultat-là, la défense ou l'attaque qui est à blâmer? Et ça va orienter un petit peu notre débat. Marvin, pour toi?
Moi, je partirais quand même sur l'attaque. Pas parce que, enfin, je veux dire, on a déjà eu des matchs où c'était vraiment horrible à regarder et on peinait vraiment à cadrer une frappe ou quoi que ce soit parce que on fait face à un bloc bas qui défend bien quoi qu'il arrive, etc. Ici, non, on a eu des occasions, on a eu des tirs à 3 mètres du goal avec Onana déjà couché au sol, qu'on a juste à cadrer et voilà. Et au final, je pense que offensivement, parce qu'il n'y a pas que l'attaque, offensivement, ça a vraiment pêché, on a manqué de. C'est même pas de la lucidité, j'ai envie de dire que c'est de la concentration, peut-être même de la condescendance à certains moments avec ah ben voilà, je suis seul devant le goal, j'ouvre un peu trop mon pied, je m'applique pas assez, etc. Et c'est ça qui paye, parce que finalement, la défense, je veux dire, on se prend le goal de Bruno sur c'est une mauvaise passe, je suis tout à fait d'accord, mais cette mauvaise passe, il peut la refaire 10 fois sur la saison. Je pense pas qu'on prenne un but à chaque fois, loin de là. Hein, c'est le gars il tape un lob du milieu de terrain, ça passe à 1 cm du doigt de Keller et à 1 cm du poteau, pour le même prix ça passe pas. Si pas, je trouve que la défense a relativement fait un bon match, à part quand on a pris l'eau entre le premier et le deuxième goal, quoi.
J'aime bien, j'avais dit un mot, mais Marvin, tu as fait l'intro, l'argument, le contre-argument, la conclusion, c'est parfait.
Et du coup, mon homme du match, c'est...
Non, Jess, je vais poser la même question. Est-ce que toi, t'es plus à pointer du doigt, comme tu parlais tout à l'heure, la finition ou peut-être les errements défensifs et le fait que ce Liverpool a quand même cette année du mal à garder des clean sheets, à vraiment avoir une sérénité défensive?
C'est vrai. Alors, je vais te répondre en un mot. Je vais te dire attaque. Néanmoins, c'est vraiment une bonne question parce que techniquement, marquer 2 buts à Old Trafford, ça devrait nous assurer la victoire. Et malgré tout, bah voilà, 2-2, ça ne nous assure pas la victoire, loin de là. Mais je dirais l'attaque parce que Marvin l'a très bien dit. C'est-à-dire que, compte tenu du nombre d'occasions que se sont créées nos attaquants, 2 buts, c'est insuffisant. Et donc, ils avaient dans les pieds, et je pense que Klopp l'a très bien dit, hein, c'est pas du genre à enfoncer les joueurs pour rien, hein, mais il a dit que, voilà, que la faute était sur le nombre d'occasions manquées. Et, c'est incontestable.
Ouais, c'est clair. Il y a une stat qui est sortie pour un petit peu appuyer sur ce que vous disiez par rapport au secteur offensif, parce que c'est vrai qu'on peut parler de l'attaque, mais au final, c'est quand même un certain nombre d'occasions et de tirs. C'est que en deux matchs de championnat contre Manchester United, il y a eu 62 tirs pour seulement deux buts marqués, donc les deux buts de ce dimanche. Marvin, comment expliquer peut-être ce manque de précision? Parce que au final, si je prends la stat contre Manchester United, dimanche, sur les tous les tirs de Liverpool, donc c'était 28 tirs pour seulement 7 cadrés, à la différence, par exemple, Manchester United, c'était 9 tirs pour 5 cadrés, donc en termes de précision, il y a quand même, c'est quand même mieux en ratio chez United. T'expliques quoi ça? C'est un manque de confiance de nos attaquants?
Je pense pas que ce soit réellement un manque de confiance, bien que, voilà, ça c'est peut-être mon avis pour le moment, mais je trouve que Salah depuis son retour est beaucoup moins habile, agile et adroit. J'ai fait tous les mots en O, même si ça commence pas par A à chaque fois. Mais je trouve qu'il y a, sur ce match-ci en tout cas, plus eu un stress, une mauvaise gestion des émotions. Le côté, allez, on est quand même dans la course au titre, il faut absolument pas qu'on se rate. Alors c'est United à l'extérieur, c'est quand même le derby d'Angleterre. Je pense qu'il y a eu un trop-plein et les joueurs ont eu la crainte de mal faire au final. Et quand on veut trop mal faire, j'ai l'impression qu'à des moments on se crame. Et il n'y a malheureusement pas eu de personne. Parce que bon, voilà, oui, on avait Virgil en capitaine. On a certains joueurs qui ont fait des bons matchs dans le milieu ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a réellement pu un moment calmer la fougue qui fait qu'on s'épuisait à rater et qu'on s'enlisait encore plus dans le stress d'avoir raté, de ne pas trouver la faille, etc. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment la confiance, parce que la confiance est là. Mais il y a, je pense, à tout un pan psychologique qui a dû jouer à un moment et qui a sans doute pesé aussi. Plus les minutes passaient, plus ça pesait, quoi.
Just, est-ce que pour toi, ce match contre United, il sonne un point de bascule peut-être pour un joueur comme Darwin Núñez? C'est un joueur qui est assez clivant. Désolé, Young, si tu nous écoutes, tu peux mettre pause un petit moment. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui peut-être illustre assez bien nos crispations avec le secteur offensif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va donner de sa personne, qui va faire les efforts, mais qui, au final, rate énormément, a beaucoup de déchets dans son jeu. Est-ce que tu penses que c'est le genre de match qui pourrait le faire passer sur le banc ?
C'est une question assez précise à laquelle je vais répondre non. Je pense qu'il va rester titulaire jusqu'à la fin de la saison. Et tu as bien présenté le joueur, quoi. C'est-à-dire que il a un capital sympathie énorme auprès des supporters, parce que il est dans le sacrifice, parce qu'il est dans l'énergie, parce qu'il est battant, parce qu'il a une personnalité, et que tant qu'on gagne et qu'on marque, on va avoir tendance à, et on l'a fait récemment, à lui pardonner les trous dans la raquette un petit peu dans son jeu, quoi. C'est-à-dire parfois un peu le manque de sens, de sens du jeu, le manque de sens du but, alors qu'il était venu pour ça quand même, hein, enquiller les buts, c'est ce qu'il faisait à Benfica. Et il dépense tellement d'énergie que ça passe, quoi. Et si en plus il fait marquer les autres, et ben ça passe encore mieux. Et sur un match comme ça où ça passe pas, il a la tête du coupable idéal, effectivement. Néanmoins, on a quand même, et il faut aussi garder ça en tête, c'est qu'on a joué des matchs sans lui, on a vu quand il est sorti ou quand il était sur le banc en début de match, on perd quand même beaucoup
d'impact,
de verticalité, et on n'arrive pas à peser sur les défenses quand il n'est pas là. Mmh. Et même quand il joue sur le côté gauche, hein, il continue à épuiser les défenses. Forcément, sur un match comme hier, on a envie d'avoir Diogo Jota dans la surface pour finir les actions, quoi, et pas Darwin. Mais quand même, Darwin reste un joueur unique en son genre. Mais fatalement, viendra se poser à la fin de la saison la question de est-ce que c'est le bon attaquant pour Liverpool? Est-ce qu'on peut se contenter de ce qu'il fait? Ça, c'est la question que moi je me suis posée hier après le match sur Darwin, parce qu'il est très frustrant quand il joue comme ça. Il a loupé beaucoup de passes, beaucoup d'occasions. Et si on veut concurrencer Arsenal et City encore et encore, est-ce qu'on peut se contenter de ce rendement-là? Voilà, la question se pose.
Marvin, je te du coup pose la question. Est-ce que si on s'arrêtait, si la saison s'arrêtait au 8 avril, au moment où on enregistre, si sa saison serait suffisante pour espérer avoir un rôle important dans le Liverpool qui va se reconstruire après le départ de Klopp?
Ben, moi, j'ai envie de dire oui, parce que... Enfin, je dis pas ça du tout parce que Young m'a donné un pot de vin, mais je trouve ça très réducteur de parler de la saison de Darwin après avoir vu ce match contre United qui nous a vraiment frustrés. Je pense qu'on a fait énormément de matchs où on a fait peut-être une vingtaine de tirs, dont 7 cadrés, et généralement il était de son petit but ou son assist, parfois même doublé de goal ou d'assist. Il y a eu des matchs où on a peut-être fait 8 tirs, 4 cadrés, et il a quand même aussi été marqué son goal. Je veux dire, on peut pas le caractériser non plus par je tue plus de pigeons que je mets de balles au fond. Il amène énormément plus que ça. Et voilà, comme Just l'explique, il crée énormément d'espace, il pèse sur une défense, etc. Et je pense que pour moi, l'année prochaine, on devrait peut-être même un peu plus baser notre jeu sur la présence de Darwin. Le fait d'avoir la présence de Darwin nous permet aussi de récupérer des seconds ballons quand on essaie de jouer un peu plus long et ce genre de choses. Et c'est un jeu qui peut peser, on peut le voir avec City. Les rares fois où ils essayent de toucher Haaland dans la profondeur ou quoi que ce soit, c'est généralement plus pour récupérer les seconds ballons et enfoncer le clou une deuxième fois. Donc je pense que il faut vraiment que Darwin soit un peu plus au cœur de notre style de jeu, comme on aurait pu le faire avec Salah les années précédentes.
Bon, en tout cas, le débat est posé et ouvert. N'hésitez pas à nous donner vos avis, très chers auditeurs, sur ce débat.
Un mot, ouais,
oui, mais toujours, Just.
Effectivement, nos auditeurs peuvent nous donner leur avis, pardon, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que son avenir, il sera aussi quand même beaucoup lié à l'identité du prochain coach qui va arriver. On sait que Klopp s'en va. On ne sait pas qui va arriver. Alors, on a des rumeurs très fortes sur un coach portugais qui vient du Sporting, mais c'est pas encore fait. Est-ce que il va vouloir un profil comme celui de Darwin? Comme celui de Mo, dont l'efficacité est aussi au cœur des discussions après ce match-là, même si Mo a prouvé depuis des années qu'il, lui, savait la foutre au fond et régulièrement. Voilà, Darwin n'est pas le seul responsable, hein, faut quand même le dire. C'est pas le seul à avoir loupé des occasions. Hein. Donc voilà, on verra avec le temps si Darwin est encore avec nous l'année prochaine.
On verra ça rapidement. Messieurs, un petit mot peut-être sur Klopp. Moi, j'ai eu l'impression qu'il a plus ou moins tout fait pour que Liverpool décroche les 3 points. C'est un peu ce qu'on attend de lui, vous me direz. Est-ce que sur la compo de départ avec les titularisations, je vais y arriver, de Szoboszlai ou de Kensa qui est coupable sur un but, etc. Est-ce que vous auriez fait la même composition Just, te donne-nous ton avis peut-être sur ça.
Oui, moi j'aurais mis la même compo, sachant que... Alors, pour moi, Ibou était disponible, visiblement... oui, il était disponible, il était sur le banc. Oui. Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'il avait mal au genou? Je ne sais pas. À part le voilà, j'aurais mis si j'avais eu le choix, j'aurais préféré mettre Ibou que Kwanzaa, sinon j'aurais mis la même équipe pour garder la dynamique du moment, quoi.
Est-ce que dans les changements qui sont intervenus, on a vu Curtis Jones rentrer à la place de Szoboszlai, Joe Gomez aussi à la place de Conan Bradley, puis ensuite il y a Gakpo qui a remplacé Núñez et Elliott qui a remplacé Endo. Est-ce que toi, Marvin, ne t'aurais pas souhaité voir un Curtis ou un Elliott plus tôt dans le match pour essayer d'apporter un petit peu ce qui nous manquait parfois dans les transitions offensives?
Si, clairement. En fait, c'est un peu compliqué parce que ce que je vais bien aimer chez Elliott, enfin, ce que je trouve, j'aime bien ce que Elliott nous amène, c'est ce que Curtis fait le mieux. C'est vraiment le fait de pouvoir remonter balle au pied, de faire des petites combinaisons assez rapides directement portées vers l'avant. Alors que quand on réfléchit, c'est plus le style de Curtis dans la conservation, lancer sur le côté, pouvoir s'infiltrer, etc. Mais dans notre jeu au milieu, en tant que numéro 8, je trouve que Elliott amène énormément. À chaque fois qu'il est monté, je trouve qu'il a énormément pesé. Il a quand même débloqué pas mal de matchs. En tout cas, c'est l'illustration que j'ai de sa saison. Et je trouve qu'à un moment, il mériterait peut-être d'être là. Et surtout qu'un match contre United, je pense que c'est un match qui pourrait lui tenir énormément à cœur, pour lequel il aurait vraiment mouillé le maillot à 200%, et qui aurait peut-être amené la petite hargne à un moment qu'il nous aurait fallu, notamment après le second but, où j'ai l'impression que voilà, le temps que lui monte, il a fait un bon impact direct, mais je pense que s'il était déjà sur le terrain, ça aurait équilibré différemment les échanges à ce moment-là, et ça aurait peut-être été plus intéressant. Donc voilà, moi le petit point que je... Alors j'adore Dominique, mais à un moment je pense que le fait de vraiment le mettre en concurrence avec Elliott, à un moment, ça pourrait avoir du bon aussi, surtout que concrètement sur le terrain, en qualité apportée à l'équipe, etc., on n'est pas perdant non plus, parce que Elliott fait aussi un bon travail défensif et des bonnes transitions.
Mais si on va clore ce débat sur ce match contre United par la petite rubrique de l'homme du match, je te fais pas un cadeau, j'en ai conscience, mais est-ce que tu as un homme du match à nous donner pour ce match-là ?
Oui, j'en ai un.
Eh ben, je la parole à toi.
Voilà, c'est tout.
Non, mais tu demandais de répondre à tes questions. Je réponds à tes questions.
Oui, je ne suis pas non plus militaire. Hein.
Non, pour moi, c'est Alexis McAllister qui reste sur sa lancée d'un niveau de très, très, très haut niveau. On l'a un peu moins vu après quand il a remplacé Endo et qu'il est passé en 6. Parce que c'est, pour moi, ce n'est pas son poste, mais il est en train de... Voilà, pour moi, il est en train d'éclabousser cette fin de saison d'une classe incroyable, la qualité des passes, les duels. Il a été un peu moins bon dans les duels, c'est vrai, mais dans l'orientation du jeu, dans sa disponibilité, créativité, c'est pour moi de loin notre meilleur milieu de terrain et contre United, notre meilleur joueur.
Ok. Marvin, pour toi ?
Alors, je sais qu'on aime bien chez les copains... citer des hommes du match un peu différents, mais je pars sur McAllister aussi, qui pour moi, je pense que là je peux vraiment le résumer en un mot, comme tu aimes bien qu'on le fasse, Audrey. c'est maestro. Okay. Impressionnant.
Bah, il aura un 3 sur 3, puisque moi ce sera Maca aussi. Franchement, il est sublime depuis quelques semaines, effectivement, vous l'avez très bien dit. J'aime beaucoup le registre varié qu'il peut proposer des matchs, parfois de calmer le tempo, des fois d'accélérer un peu, la variété aussi dans son jeu, que ce soit dans les passes, dans les tentatives aussi. Ça fait plaisir. J'en discutais avec un pote il y a pas très longtemps et j'avais un peu l'impression, si on met de côté le profil de Naby Keita, que c'était un peu le joueur le plus technique et le plus spectacle qu'on avait depuis Coutinho un petit peu, j'avais l'impression. Peut-être on peut aussi mettre Thiago de côté, parce que c'est vrai que c'est un peu dans le même registre, mais avec les blessures de Naby et de Thiago, c'est un peu difficile de comparer. Mais voilà, j'apprécie grandement de retrouver un petit peu cette palette technique dans le milieu de terrain.
Et je rajouterais le vice, quoi.
Ouais,
Tu vois,
je sais pas si c'est du vice ou si c'est juste vraiment du QI football pur, tu sais, un truc vraiment. Pour moi, vice, ça a presque une connotation un peu péjorative. Tu vois, c'est pas le genre de mec qui va te mettre un gros tacle pour faire mal. Ça, c'est du vice, tu vois, pour moi. Mais je vois ce que tu veux dire dans.
Fait la violence.
Oui, aussi, mais bon, ça, c'est un peu du vice.
Lui, il n'est pas exactement. Violent. Exactement. Il sent le match, il sent l'adversaire.
Exactement.
Il sait ce qui va les emmerder. Il sait ce qui va leur faire mal. Tu vois, c'est effectivement, c'est du QI foot. Mais il flirte avec la règle, tu vois ce que je veux dire. Il sait faire la faute intelligente aussi. Il est extrêmement complet. Hein.
Ouais. C'est clair. Bah, heureusement
qu'on marque des buts de malade.
Oui, non, mais puis imagine s'il était resté toute la saison en 6 et qu'on n'avait pas vu l'explosion aussi de Endo. Ça aurait été du gâchis de l'avoir aussi longtemps un cran en arrière. mais si on va pouvoir aborder peut-être un petit peu la fin de saison, si vous nous suivez sur Twitter notamment, ou bien sur X pour les gens qui ont adopté le nom donné par Elon Musk à ce réseau social, on a publié un calendrier alors un peu plus complet que ce que la Première Ligue a fait, puisque on s'est permis d'ajouter les matchs des autres compétitions, donc pour Liverpool, Arsenal et City. Marvin, j'aimerais bien ton avis un petit peu sur ces calendriers respectifs de chacune des trois équipes qui sont engagées dans la course au titre en Première Ligue. Est-ce que pour toi, dans ces trois calendriers, il y a une équipe qui a un calendrier des matchs restants un peu plus facile que les autres ou pas vraiment ?
C'est compliqué parce que je pense qu'en vrai, les trois calendriers ne sont pas si simples, mais j'ai quand même malheureusement l'impression que City s'en sort quand même vachement mieux, dans le sens où ils ont quelques matchs qui sont un peu plus abordables, qui sont toujours parfois traîtres, mais quand même assez compliqués. Et j'ai l'impression que c'est Arsenal qui a le plus difficile. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment un enchaînement, surtout s'ils arrivent à battre le Bayern, qui est un peu en rouillé pour le moment. J'ai l'impression qu'ils vont avoir vraiment une grosse succession de matchs très compliqués. Et de toute façon, peu importe les calendriers, l'équipe qui sera championne, c'est l'équipe qui fera son sans faute, à mon avis. Hein.
Pas si ce sera un sans faute, mais...
Bah, je vois. Enfin, malheureusement, j'ai vraiment l'impression que la moindre équipe qui va faire un match nul au lieu d'une victoire, comme on a pu faire ici, va directement voir les deux autres prendre une longueur d'avance qui peut faire très très mal, surtout dans un sprint final comme ça.
Alors, juste avant de te donner la parole et de demander ton avis également sur ces calendriers, je vais vous donner le mien parce que du coup, je me suis penchée sur les calendriers de chacun. Et en fait, au début, j'étais comme toi, Marvin, à me dire que City avait, semble-t-il, le calendrier le plus simple. Mais, et ça dépend forcément de la qualification en Ligue des Champions, ils jouent en quart là contre le Real Madrid. S'ils passent le Real, ils ont quand même un match tous les trois jours avec un déplacement du match contre Tottenham entre le dernier et l'avant-dernier match entre Fulham et West Ham. Et ça voudrait dire qu'ils jouent vraisemblablement tous les trois jours. Donc, je pense que cette année, City, c'est l'année où ils ont peut-être l'effectif le moins profond, peut-être pour encaisser cette charge de fin de saison. Donc, pour moi, City a vraiment le calendrier le plus, peut-être le plus difficile dans l'enchaînement, même si je te rejoins sur le fait qu'Arsenal a aussi un bel enchaînement s'il y a qualification pour la demi-finale de Ligue des Champions. Just, je veux bien t'entendre sur ce petit débat de fin de saison, selon toi. Peut-être qu'on peut parler du calendrier de Liverpool. Est-ce que tu penses qu'on est aussi défavorisé ou favorisé peut-être que les autres, que nos concurrents directs au titre par rapport au match qui nous reste à jouer ?
En fait, le sentiment que j'ai sur cette fin de saison, et surtout ce qui fait écho au match à United, c'est que les trois équipes qui jouent le titre peuvent gagner tous les matchs. Et ils seront favoris de tous les matchs qu'ils vont jouer, si ce n'est qu'il y aura quand même des matchs difficiles dans l'émotion. Et ça joue beaucoup, j'ai l'impression, et ça va beaucoup jouer dans ces derniers matchs. Je veux dire, Arsenal va aller à Tottenham, nous on va aller à Everton qui joue le maintien. City, son calendrier effectivement de première ligue est plus abordable, mais ils vont affronter le Real de Madrid, ils vont forcément y laisser beaucoup d'influx aussi, pas sûr qu'ils passent, ça risque d'être une double confrontation très disputée. Moi, Liverpool fait une saison où elle gagne la plupart des matchs, elle fait une saison extraordinaire, Liverpool. Enfin, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. On a dit beaucoup de mal de Salah et Nunez, mais on a la deuxième meilleure attaque, on a la deuxième meilleure défense, on n'a perdu que deux matchs, et pourtant, on a l'impression qu'on est tout le temps sur le fil, quoi. Qu'on n'arrive pas à gagner un match facilement, 3-4-0. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on est tout le temps quand même un peu dans la difficulté, et je pense qu'on va rester dans la difficulté forcément jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que ça va suffire pour remporter assez de points pour gagner le titre ? J'étais vachement confiant quand même avant ce match à United. Ce match nul fait un peu mal quand même au moral et j'ai un peu moins confiance. Et mon sentiment est que la dynamique est plutôt du côté d'Arsenal. Voilà. Moins de blessés, ils récupèrent des blessés, ils marquent des buts très facilement, eux, en début de match. Ils se rendent souvent des matchs de championnat très faciles en menant 2-3-0 avant la mi-temps. Ça, c'est un avantage certain, je trouve, par rapport à nous.
Marvin, si on se projette très rapidement sur... déjà, ne serait-ce que jeudi, le match contre l'Atalanta, le match aller à Anfield. C'est quoi, toi ? Tu t'attends à quoi sur cette double confrontation contre l'Atalanta ? Est-ce que tu penses qu'on est capable de plier un petit peu ce quart de finale dès le match aller ? Ou au contraire, tu penses que ça va quand même être un peu disputé ?
Non, moi j'ai l'impression qu'on va plier ça relativement vite parce que l'Atalanta a un style de jeu qui nous correspond, dans le sens c'est une équipe qui se découvre quand même assez vite sur le terrain, qui aime bien se projeter en nombre à certains moments, etc. À nous de profiter des contres et de les cadrer, hein, pas comme ce week-end. Mais si jamais on apprend de nos erreurs, pour moi, le match de jeudi doit être plié. Je pense que on doit vraiment clairement marquer 4-5 buts. 5 buts, j'exagère, mais au moins 3 buts contre l'Atalanta et juste assurer tout ça. Comme ça, ben, le match là-bas, on peut se permettre de faire un peu plus tourner et ça peut être intéressant.
Après, s'il devait y avoir un peu plus de suspense dans cette double confrontation, on jouerait Fulham sur le match après le match retour à l'Atalanta. Peut-être qu'on pourrait se permettre de mettre un petit peu plus d'énergie dans la bataille pour se qualifier pour la demi, Just.
Ouais, complètement. Moi, je pense qu'on a les moyens de se rendre la tâche facile dès le match aller et du coup, pouvoir un peu mieux gérer le match retour qui aura lieu effectivement trois jours avant le match de Fulham qui sera... Fulham, ça va pas fort en ce moment, hein.
Ouais.
Mais ça sera à Fulham et je crois qu'on aura plus de match facile. Mettons l'équipe type contre l'Atalanta au match aller pour pouvoir mieux faire tourner, mais voilà, on n'aura pas de... Ouais. On aura encore des difficultés enchaînées derrière. On aura un calendrier avec des matchs tous les 3 jours. Ça va être compliqué. J'espère qu'on n'aura pas de blessés, tout simplement.
Marvin, dernière question avant qu'on conclue cet épisode, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Le fait qu'on va enchaîner 4 matchs minimum à l'extérieur, l'Atalanta, Fulham, Everton et West Ham. Bon, alors Everton, vous me direz, c'est toujours à Liverpool, donc c'est pas forcément un match à l'extérieur. Mais bon, sur le principe quand même. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui peut soulever un petit peu des inquiétudes pour toi quand on sait en début de saison à quel point Liverpool a été un peu en difficulté sur les matchs à l'extérieur?
Ouais, c'est surtout, je pense qu'il va y avoir l'enchaînement de fatigue avec les voyages qui vont se faire, qui pour moi pourront peser un petit peu, mais je ne le crains pas non plus de trop, parce que je pense que ça reste des pros qui ont une hygiène de vie monstrueuse et qui vont pouvoir gérer ça. Surtout que notre équipe va petit à petit, enfin on récupère pas mal de joueurs. J'ai envie de couper la balle au bon à Just. On récupère pas mal de joueurs déjà à l'heure actuelle. On a encore d'autres joueurs qui vont arriver, qui vont être importants pour la suite de l'aventure. Ça me fait pas peur en vrai. Ça me fait pas peur, surtout que voilà, comme tu dis, en plein milieu de tout, on a Everton qui est limite plus chez nous que nous-mêmes. Donc ça me fait pas si peur que ça.
Bon, messieurs, on va pouvoir s'arrêter là. Merci à vous deux de vous être libérés sur ce lundi soir pour pouvoir enregistrer cet épisode. Et quant à nous, très chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. On revient de toute façon très vite. Les matchs tous les 3 jours, comme Just l'a souligné tout à l'heure, il n'y a plus de week-end de Pâques, sauf erreur, donc on devrait pouvoir enchaîner. Si il devait pas y avoir un épisode, c'est voilà, par manque de disponibilité, on a aussi nos vies à côté, on fait ça bénévolement, puis je le rappelais. Donc voilà, en tout cas, merci de nous suivre, d'être aussi nombreux et assidus à la lecture de nos podcasts. D'ici notre prochain épisode, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut.
Up the Reds.